Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Christophe Cécile.
Deux matchs de foot sont au programme de cette fin d'après-midi sur RMC, de cette fin de dimanche après-midi, l'Intégral Foot évidemment. Alors, en Ligue 1, sachez que Nantes et Monaco sont à égalité 0-0 à la pause. Et en Coupe d'Afrique des Nations, eh bien le Cameroun a renversé la vapeur après avoir été mené 1-0 par le Burkina Faso. Ils ont bénéficié de deux pénaltys. Les Camerounais, les Lions indomptables, et ils mènent désormais 2-1. Là aussi, c'est la pause à Yaoundé. Dans un instant, on retrouvera Timothée Mémon qui nous fera vivre un peu l'ambiance qu'il règne dans ce magnifique stade qui a été construit pour l'occasion. En attendant, on va parier sur la deuxième mi-temps de Nantes-Monaco.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Guillet qui est là, évidemment, toujours un œil attentif à ce qui se passe. Et qui a toujours une petite cote intéressante à donner à coach qui désespère, hein, qui n'a pas vu Brest réussir à marquer un but à Nice. Et là, il est dans une situation compliquée, notre coach. Est-ce que tu peux lui donner des conseils, Johan?
Exactement, Christophe. Quelle belle intro. Quelle belle manière de m'introduire. Je te remercie. On va donner les conseils. 5 maintenant. La victoire de Nantes. 2-25, le match nul. 1-98, la victoire de Monaco. Bon, coach, là, ça va se jouer sur est-ce que tu es optimiste ou non. Moi, à titre personnel, je ne le suis pas vraiment. Du coup, je vais miser sur le 0-0 qui vous permet de tripler la mise.
Non, moi je pense qu'il y a...
Voilà, ça lui va pas du tout le 0-0.
Une des deux équipes qui va ouvrir le score et l'autre, elle va égaliser.
Une des deux équipes qui va ouvrir le score, donc tu miserais plutôt sur le 1 partout.
Voilà.
Le 1 partout qui est coté à 7. Et tu vois quelle équipe éventuellement ouvrir le score ?
Nantes.
Nantes qui ouvre le score ? Alors Nantes qui ouvre le score, c'est coté à 3,60. Et donc je répète, le 1 partout est coté à 7.
Voilà, et grâce à ça...
Grâce à ça, pourquoi
Jack
pas ?
Jackpot pour Roland, évidemment. Merci, Johan.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Roland, est-ce que tu as mis un petit billet sur les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations ou
non,
tu
non, je les regarde avec beaucoup d'attention, mais on attendra quand même que les poules soient terminées.
Que tout se décante un petit peu avant de savoir quelles sont vraiment les forces les plus importantes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, on va aller faire un tour à Yaoundé. On va retrouver un garçon qui se régale. Il est là. C'est presque le reportage d'une vie. Franchement, aller couvrir la Coupe d'Afrique des Nations, découvrir en plus ce pays, le Cameroun, qui est complètement dingue de ballon dans ce stade qui a été construit pour l'occasion avec le Cameroun qui a renversé la vapeur. Timothée Mémon se régale. Salut Tim. Il n'entend pas.
Salut messieurs.
Salut Timothée.
Tim, raconte-nous un peu l'ambiance.
Salut messieurs.
Ouais, alors.
L'ambiance est incroyable. Tu parlais d'une reportage d'une vie. C'est pas compliqué. Pour ma part, l'ambiance que j'ai vécue avant le début de la rencontre, aux abords du match, c'est clairement l'ambiance la plus incroyable que j'ai vécue en tant que reporter. Et ça fait 18 ans que je fais ce métier. Une ambiance folle, festive, heureuse. Le Cameroun attend cette Coupe d'Afrique des Nations depuis 50 ans. La dernière compétition ici sur le sol camerounais, c'était en 72. Elle devait revenir en 2019, reportée à cause des infrastructures. En 2021, reporté à cause du Covid. Et là, voilà, enfin, cette compétition a pu commencer. On a également vu à l'intérieur du stade une ambiance fabuleuse. Vous imaginez à peine ce qui s'est passé sur les deux pénaltys inscrits par Vincent Aboubakar. Le stade s'est levé, a vibré. Ce stade est magnifique. Il est tout neuf. Il a été construit pour cette compétition. Bref, c'est une entame parfaite de Coupe d'Afrique des Nations à domicile pour le pays hôte, pour le Cameroun. En tout cas, on vit vraiment un moment incroyable. Il y a énormément de pays de foot en Afrique. Le Cameroun est peut-être l'un des pays les plus estampillés football, peut-être encore un peu plus que les autres, sans faire offense au Sénégal, au pays du Maghreb. Il y a beaucoup de pays de foot, je l'ai dit, mais là, c'est vraiment parti sur des bases incroyables. La cérémonie d'ouverture a été splendide. Bref, c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer. Et puis, on ne va pas se le cacher non plus. Sur le plan Covid, il y avait cette fameuse jauge à 80%. Elle est respectée. Le stade n'est pas complètement plein. Mais pour le reste, pour ce qui est de la distanciation, des masques, très clairement, on est revenu en 2016. Alors, ce que je vais dire, ça n'est absolument pas politique ni polémique, mais ça fait du bien. Parce qu'on passe un vrai bon moment de football et c'est assez incroyable.
Ouais. Évidemment, c'est tout un pays qui fait la fête. Tu nous le disais, le Cameroun, c'est un pays qui est dingue de foot. Il n'y a pas que des footballeurs, il y a aussi des anciens tennismen, évidemment. Yannick Noah, originaire du Cameroun, dont le papa était footballeur, on le rappelle, lui aussi. Je crois que tu as passé la soirée avec lui, avec quelques happy few hier soir, c'est ça, Timothée ? Raconte-toi un peu.
Je vois qu'elles vont vite. Effectivement, hier, on était invité par l'équipementier du Cameroun, qui était aussi le sponsor de Yannick Noah. Vous aurez vite trouvé qui c'est. Et nous étions invités dans le club Noah. Ouais, absolument. Nous étions invités dans le club Noah. C'est un club qui a été construit autour de la maison de son père. Lui-même y vit, Yannick Noah, depuis quelques semaines maintenant. C'est fini depuis quelques semaines. Il y a un petit espace concert. Il a donné un concert absolument hallucinant à partir de minuit. Ça a duré facilement 3 heures avec une énergie folle. Et vraiment, on a senti à travers Yannick Noah, qui est un peu le trait d'union pour les amateurs de sport en France, entre la France et le Cameroun, on a senti à travers cette énergie et cette joie qu'avait Yannick Noah d'accueillir finalement le monde entier, le reste de l'Afrique, mais aussi le monde entier, et bien que tout ce pays, il est un petit peu le porte-parole de tout ce pays, qui est très très heureux vraiment d'accueillir cette compétition. Pour qu'une CAN soit réussie, il faut que les supporters soient derrière leur nation sur le plan footballistique, mais il faut aussi qu'elle soit derrière l'événement. Et je peux vous dire que les Camerounais sont à fond derrière cette compétition, derrière l'événement en lui-même, et ça se ressent, ils ont envie que ce soit réussi, et pour le moment, c'est que le début, mais ça l'est.
Et le pays était prêt pour le début de cette compétition. J'ai lu des papiers où on disait qu'on était en train de donner des derniers coups de pinceau, évidemment, quelques heures seulement, ou quelques minutes seulement, avant la cérémonie d'ouverture, qui était particulièrement réussie tout à l'heure. Hein. Très riche en couleurs, il y avait une belle ambiance. Hein.
Oui, magnifique, une cérémonie d'ouverture en 6 actes sur le thème du lion qui se réveille, parce que, évidemment, les lions indomptables. Pour ce qui est des infrastructures, aéroportuaire impeccable sur le plan des routes, ça reste évidemment perfectible, mais on va dire que ça fonctionne bien, ça roule plutôt bien. Pour ce qui est des stades, ce stade dans lequel je suis, le stade d'Olembe, il était censé être prêt en juin 2019. Quand je suis venu chercher mon accréditation avant-hier, on était en train de clouer des pancartes, de mettre des coups de pinceau. Alors effectivement, ça s'est un peu fini dans les derniers instants. J'ai discuté avec le directeur du stade qui a expliqué que ça a été un petit miracle que tout soit prêt, mais c'est vrai que tout est prêt. Et pour ce qui est de l'infrastructure elle-même, c'est un stade absolument splendide, très très moderne, avec une sonorisation impeccable, un stade digne de ceux qu'on a vu pendant l'Euro par exemple, il n'y a aucun doute. Et vraiment, le Cameroun n'a pas à rougir sur ce point-là. Il paraît, je ne l'ai pas encore vu, que le stade de Japoma à Douala est splendide également. Il faut rappeler que le Cameroun a construit 4 stades pour cette compétition, en a rénové 2, et qu'au total, c'est 780 millions d'euros qui ont été investis pour l'organisation de cette compétition. Tenez-vous bien, ça représente 2% du PIB. C'est colossal.
Ouais. Évidemment, donc on n'a plus qu'à souhaiter que le Cameroun aille très loin dans la compétition, parce qu'autrement, ça pourrait faire tous ceux qui sont pas fans de foot. Enfin, on l'a bien compris, la plupart des Camerounais sont des dingues de ballon. Merci Timothée, régale-toi.
Ça fait tous ces personnes.
Ouais.
Ça te fait tous ces personnes, oui, je te couvre, mais est-ce que ça fait tous ces personnes, c'est ça qui est dingue. Et quand je dis que le pays est derrière sa compétition, c'est qu'il y a eu des dépenses somptuaires, 780 millions d'euros, c'est 500 milliards de francs CFA. Mais personne ne vient critiquer ces dépenses au Cameroun. Tout le monde est tellement heureux que cette compétition soit là, qu'il n'y a jamais eu débat sur ces dépenses-là en tout cas.
T'imagines un truc pareil en France, il y aurait la moitié du pays qui serait vent debout. Mais oui, c'est ça, la différence entre les pays africains où on pense, on est optimiste et on sait faire la fête, même si évidemment ça coûte très cher tout ça. Mais voilà, c'est un bel événement pour ce pays qui accueille cette Coupe d'Afrique des Nations et qui mène en plus 2-1 face au Burkina. Merci Timothée, on te retrouve évidemment tout au long de la compétition. C'est reparti à la Beaujoire, Aurélien et David qui sont présents et qui espèrent des buts et qui espèrent une ambiance digne de Yaoundé.
Pas gagné, on en est loin. Attention à Ludovic Blaster dans la surface de réparation après un petit élastico à la mode Ronaldinho. 0-0, 20 secondes de jeu en seconde période, et Ludovic Blas qui obtient, sous les applaudissements des 5000 supporters. Bon, à mon avis, j'ai jamais été à Yaoundé, mais ça doit sonner un peu plus fort quand même.
J'imagine.
C'est déjà ça. Et Sébastien Corchia, le nouvel entrant, à la mi-temps.
Il a remplacé Fabio, et c'est lui justement, Sébastien Corchia, qui va frapper ce corner. Il est frappé au deuxième poteau et c'est dégagé de la tête par la défense monégasque. Quand même repris derrière par Moutou Sami, le long dégagement de la charnière centrale monégasque, et Quentin Merlin en couverture qui va pouvoir mettre en retrait à Alban Lafont, et le gardien nantais qui va dégager très très loin.
Ouais.
Ouais, mais messieurs, on va revenir vers vous parce qu'on a un petit écran de retard, donc on va revenir. Mais si vous nous appelez, s'il y a un but, hein, mais bon, on n'est pas pressé non plus. Hein, on se demande que ça va venir tout de suite.
Bon, allez, on va 18h03.
J'espère bien. 0-0 pour l'instant. Le jeu qui a donc repris depuis une minute à la Beaujoire. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessier.
Vous savez, il reste un match encore à jouer dans cette 20e journée de Ligue 1. Il y en aura aussi à jouer plus tard parce que certains ont été reportés. Le match vedette, ce sera donc ce soir, 20h45, au Groupama Stadium. Là aussi, malheureusement, avec une jauge de 5000 spectateurs seulement pour assister à ce choc de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. On en parlera tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux, Édouard G et Jeannot. Non, c'est pas Jeannot qui nous fera vivre le match ce soir, si ?
Ah si, je crois.
Évidemment,
je crois.
Bah oui, il ne peut pas louper ça. Jeannot et Edouard, ça c'est la paire magique du soir. Il y en a une autre de paire, elle est magique, elle est encore jeune, toute jeune. David et Aurélien, ce sont des juniors qui un jour
remplaceront
Jeannot, évidemment. Ils auront la peau hein, de Jeannot.
On compte sur vous, les gars. À un moment donné, normalement, je nous le souhaite.
Mais attention, hein, il s'accroche hein, le vieux requin là. Hein.
À l'amour du ballon, ça fait tenir.
Ouais.
Hein.
Ah ouais.
Bon, ouais, bon, en même temps, l'amour du ballon, cet après-midi, David, faut l'avoir tout de même.
Il faut l'avoir hein, ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. La 50e, 0-0.
Ah, ça, hein, il s'ennuie jamais. On va se la différence, tu vois. Ouais.
Allez, le ballon, là, c'était pour Colomani, mais la bonne défense du Chilien Marépan, la récupération derrière de Marépan, ouais, qui est contré, là, peut-être la récupération à l'entrée de la surface de réparation avec Moutou Sami qui peut donner à Roli Pereira Dessart, qui va peut-être perdre le ballon. Il a quand même réussi à transmettre à Chirivella qui va écarter complètement sur le côté gauche pour Quentin Merlin qui va peut-être essayer de centrer. Le centre de Merlin, ouais, il a éliminé son vis-à-vis. Merlin toujours, mais qui va perdre le ballon et c'est récupéré une nouvelle fois par les Nantais.
Et très haut par Nicolas Palois, de nouveau avec Roli Pereira. Ça sur le côté gauche, il va s'en sortir encore une fois, magnifique le jeune joueur Nantais, il pénètre dans la surface de réparation sur le centre en retrait, la frappe au-dessus, c'est Ludovic Blas qui a repris le centre de Roli Pereira de ça. Les défenseurs monégasques sont complètement passés au travers et la reprise du meilleur buteur Nantais, Ludovic Blas, qui passe au-dessus des cages d'Alexander Nubel et là Guillermo Maripane, le défenseur monégasque, qui réprimande un petit peu ses collègues. Alors il y a Matsima et Aguilar notamment qui se sont fait transpercer totalement. Les deux entrants, on rappelle qu'en première période, Essili B et Benoît Badiachil sont sortis blessés, obligeant Philippe Clément à effectuer deux remplacements déjà. 50 minutes et 30 secondes de jeu, 0-0. Mais les Nantais, les Canaris sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, eux qui ne s'étaient quasiment jamais pointés dans la surface monégasque en première mi-temps.
Ouais, il y avait eu une frappe hein, en première période des Nantais, une frappe de Ludovic Blas, justement, c'était déjà lui. Et il n'y avait pas eu grand-chose sur le plan offensif, c'était plutôt le néant, 51e, 0-0, et le ballon dans les pieds des Monégasques avec Tchouaméni pour Matadzo qui peut essayer de servir, qui a essayé de servir volante, finalement c'est récupéré, je vais y arriver derrière, par Korchia, et la mauvaise relance de Korchia et la contre-attaque des Monégasques
avec Sofiane Diop à l'entrée de la surface de réparation, l'appui avec Caio Henrique qui avait impressionné pendant 10-15 minutes, lui le latéral gauche repositionné, meneur de jeu, le ballon récupéré haut par les Monégasques avec Aurélien Tchouaméni, l'arrière, la transversale vers la droite pour Gelson Martins face à Quentin Merlin, le Portugais qui se retourne, c'est magnifique, il arrive à pénétrer dans la surface de réparation, il efface Palois, Gelson Martins se centre en retrait pour Volland et l'Allemand qui n'y arrive pas décidément cet après-midi, il est transparent, Kevin Volland, et le ballon récupéré par les Nantais, une petite faute en plus sur Pereira et ça, le ballon sera donc redonné au FC Nantes.
Le talent de Ben Yedder manque quand même hein.
Oui.
Énormément.
Devant, ouais, parce que là, c'est vrai qu'il fait ce qu'il faut, Gelson Martins. Mais on en reste à 0-0 ici à la Beaujoire entre Nantes et Monaco après 52 minutes de jeu.
Un petit détour par Yaoundé. Là aussi, le jeu a repris en deuxième période entre le Cameroun et le Burkina. Morgan Mori, toujours 2-1 pour le Cameroun.
Oui, le Cameroun était devant à la pause. Il l'est toujours à la 49e minute. Mais un beau coup franc de Bertrand Traoré, boxé des points par Onana, alors qu'il était peut-être pris légèrement sur sa gauche, le gardien de l'Ajax Amsterdam. 2-1 pour le Cameroun face au Burkina Faso à la 49e minute.
Merci, à tout à l'heure Morgane. On va revenir coach sur un match que tu as suivi, c'était en début d'après-midi, ça se passait à Brest, au fin fond de la Bretagne. Brest recevait l'OGC Nice et eh bien c'est l'OGC Nice qui est allé s'imposer 3-0 en terre brestoise, les Niçois pourtant réduits à 10 contre 11 rapidement dans cette rencontre, mais qui avait déjà ouvert la marque lorsque Schneiderlin a écopé d'un carton rouge, et ensuite eh bien ils ont réussi à marquer 2 buts supplémentaires. Roland, toi qui as regardé le match du début à la fin, c'est un hold-up, cette victoire niçoise ?
Non, c'est pas le terme du tout, puisqu'à partir du moment où tu as un joueur expulsé et que tu joues les deux tiers du match à 10 contre 11, si l'adversaire ne sait pas en profiter, ben, c'est pas de ta faute. Et on a des Niçois qui sont quand même par moments difficiles à suivre. Quand tu vois le parcours, quand tu vois le classement de Nice, quand tu
deuxième,
vois
les
trois défaites d'affilée à domicile, et que malgré ce, ils se retrouvent deuxième, c'est quand même une saison encore extraordinaire que fait notre ami Galtier.
Voilà, et Benitez est pas mal non plus. Tiens, Xavier Grimaud, il est sur la route du retour, parce qu'il faut y aller à Brest. Hein. Il a l'habitude, il y va une fois par semaine, il aime bien ça, c'est 3 heures de route aller, 3 heures retour, c'est ça la vie de reporter. Ça va, Xavier ?
Oui, salut Christophe.
T'es presque
salut
rentré Roland. À la maison, pas encore ?
Oui, j'y suis presque.
Voilà, allez. Ouais. bon, match incroyable quand même, réalisé par Benitez, notamment le gardien niçois, sur lequel tous les Brestois sont venus buter. Sans lui, le score aurait sans doute été très différent. Hein.
Oui, sans lui, Brest aurait sans doute égalisé, peut-être même avant la pause. Benitez a fait beaucoup d'arrêts décisifs. Il a été excellent. Mais c'est vrai que si on regarde le score brut 3-0, on pourrait se dire que Nice s'est baladé. Et ça n'a pas été le cas. Nice a souffert, mais pourtant Brest a beaucoup tenté. 60 centres pour les Brestois, c'est une stat qui est extrêmement rare. Et pourtant, Michel Dervacarian, il disait pas que Brest méritait autre chose que la défaite, tout simplement parce que pour le coach brestois, Brest a tenté beaucoup, mais a tenté de manière désorganisée, a surtout été défensivement totalement à l'envers avec les buts niçois où les Bretons ont très mal défendu. Brest n'a pas joué en équipe, n'a pas joué collectif, et selon Derzakarian, ça fait déjà plusieurs semaines que c'est le cas. Donc voilà, Nice a plutôt mérité sa victoire en courbant les chines, Roland, mais c'est une victoire qui peut être importante, hein. Christophe Galtier le reconnaissait, pour commencer l'année, ils n'ont pas joué depuis Noël puisqu'ils étaient exemptés de Coupe de France déjà qualifié suite au match PFC Lyon, avec des joueurs qui sont à la canne, des joueurs importants, hein, Attal, Lemina, des joueurs qui étaient absents pour cause de Covid. Bref, tout le groupe a répondu présent, et pour Christophe Galtier, ça montre que la dynamique est réenclenchée, et il y mettait beaucoup de sens à cette victoire. Et c'est quand même assez impressionnant ce que font les Niçois, hein, avec une équipe qui est quand même très très dure à prendre en défaut. Dante et Todibo notamment ont été assez exceptionnels.
C'est pas la première fois d'ailleurs. Et ce Dante, revenir aussi vite et retrouver son niveau après aussi peu de temps dans une opération qui est quand même pas évidente, les croisés à son âge, sincèrement, c'est vrai que c'est un poste d'arrière central, d'accord, c'est pas un poste d'attaquant, mais ça fait rien, il est là à son meilleur niveau.
Et puis le talent devant, Christophe, hein, le talent devant, parce que le premier but d'Holberg.
Les trois attaquants ont marqué. Ouais, Holberg, notamment, qui n'avait pas marqué depuis un moment. Hein.
Exactement. Le premier but d'Holberg, franchement, regardez-le, parce que c'est magnifique. Un vrai but de talent, hein, Roland. La frappe, elle est imparable.
Ouais,
de chez imparable. C'est pas la plus spectaculaire.
On le laisse un peu tout seul quand même. Hein.
La frappe, elle est parfaite. C'est pas le plus spectaculaire, mais c'est vraiment un vrai but de classe. Guiri, n'en parlons pas, il marque un but en soliste magnifique. Et Delors, qui est sorti du bas marque.
Alexander Dubel sur la reprise de Pedro Chirivella. Les Nantais, une grosse occasion. Ils sont en train de faire mal aux Monégasques en ce début de seconde période. Et la parade d'Alexander Nubel derrière une faute sur Guillermo Maripane. Les Monégasques sont en train de souffrir. 57 minutes, 0-0 entre Nantes et Monaco.
Oui, Xavier, tu as été coupé par tes petits camarades.
Oui, voilà. Non, et juste pour finir, Nice, avec cette victoire à Brest, prend quand même 5 points d'avance sur Rennes, hein, qui cale, à 6 points d'avance sur Monaco, en attendant ce que vont faire les Monégasques.
Il prend 3 points, tu peux rajouter un demi-point de goal average.
Exactement. En plus, donc, c'est vraiment une opération parfaite.
À 10 contre 11, tu améliores ton goal average. C'est quand même pas tout à fait courant.
Voilà, dernière chose, Christophe, peut-être sur le groupe niçois, il y avait un... pensait peut-être un petit coup de bœuf, un imbroglio au niveau du groupe niçois qui, Christophe Galtier avait annoncé en conf avant le match, 2 cas positifs au Covid, puis le groupe publié par le club était au complet. Finalement, il y a bien 2 joueurs et même 3 joueurs qui n'ont pas fait le déplacement pour cause de Covid. Christophe Galtier s'est entre guillemets défendu en disant que Emil Vinbar et Jordan Amavi ont eu d'abord un test positif, puis le lendemain un test négatif, puis le jour avant le match un test positif. Voilà, qu'il fallait jongler avec ça et que maintenant il allait essayer jusqu'au dernier moment de pouvoir incorporer ses joueurs, mais que que là, il y avait eu des faux positifs ou des faux négatifs, c'est selon. Donc voilà pourquoi les trois joueurs de Nusa étaient restés à la maison.
Très Blas, bien. Blas en surface de réparation. Oh là là, la Blas qui enlève trop, ça frappe, encore une occasion pour les Nantais. Ah, ça on en reste à 0-0 après 58 minutes de jeu ici à la Beaujoire. Mais quelle occasion
ça,
pour
ça
Blas.
Ça fait beaucoup quand même, si ouais. Je ne dis pas de bêtises, les Nantais ont plus d'occasions depuis le début du match que les Monégasques.
Physionomie totalement différente, inversée même par rapport à la première période. Krilin Matsima a beaucoup de mal à se mettre dans le rythme du match. Le défenseur entré à la place de Benoît Badiachil, blessé. Matsima qui a totalement manqué sa relance d'ailleurs. Et Moutoussamy qui peut décaler Ludovic Blas. Guillermo Maripane était aussi pas très attentif là-dessus. Ça commence à être compliqué. Philippe Clément rêvait de début certainement meilleur avec sa trouvaille Caio Henrique, meneur de jeu. Ça a été très bon pendant un quart d'heure. Ouais. Et là, c'est en train de partir en cacahuète, tout doucement, mais sûrement.
Très bien. On revient vers vous dans un instant. Merci à Xavier. On va pouvoir le libérer. Il va pouvoir rentrer jusqu'à son domicile après cette très longue route et cette défaite brestoise 3-0 sur sa pelouse battue par Nice. Nice qui recevra le FC Nantes. Justement, ce sera vendredi prochain à suivre sur RMC à 21h. Et puis ensuite, Metz-Nice. Et puis la Coupe de France, ça sera à la fin du mois avec cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Nice, tout simplement les deux premiers au classement de Ligue 1. Ça, c'est un beau choc de Coupe de France, hein, mon cher Roland.
Ah ouais, on suivra ça. Avec en plus Lens Monaco, Marseille.
Ah oui, il y a quelques affiches.
Marseille et Montpellier.
Il devait y avoir boule chaude et boule froide, à mon avis, pour Serge Ossor. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Très bien. Avant de repartir à Nantes, hein, on rappelle toujours 0-0 entre Nantes et Monaco. Petit détour par la Coupe d'Afrique des Nations. Morgane, Cameroun, Burkina Faso.
Le Cameroun tient son avantage d'un but, 2-1 pour les Lions Indomptables à la 56e minute. Mais énorme chaleur sur le but d'Onana. Un coup franc de Bertrand Traoré sur la gauche à la limite de la surface de réparation. Il a centré très fort, ça a été dégagé derrière la reprise de Touré, là aussi sauvé pratiquement sur la ligne. C'est la 57e minute, corner à venir pour le Cameroun qui mène 2-1 face au Burkina Faso dans ce match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la poule.
On va suivre, il y a un corner, on reste avec toi Morgan.
Et le corner est pour les Camerounais, tiré de la gauche vers la droite pour faire gonfler leur avantage. Ils mènent grâce à deux pénaltys transformés par le capitaine Vincent Aboubakar qui évolue maintenant dans le championnat d'Arabie Saoudite. Le corner revient dans un instant, le réalisateur nous remonte la grosse action burkinabé qui a échoué. Ça y est, c'est tiré, c'est dévié au niveau de la 10 mètres par un joueur burkinabé de la tête, le ballon qui retombe, les coups de sifflet de l'arbitre, le contre à venir qui va s'amorcer pour les burkinabés. 57e minute, Christophe, 2 pour le Cameroun, 1 pour le Burkina Faso.
Ok, à tout à l'heure Morgane pour la suite de cette rencontre. Retour à la Beaujoire, on espère. Et il croise les doigts là, notre coach, évidemment, pour que le score s'ouvre entre Nantes et Monaco. Roland,
ça serait un match passionnant si les Nantais ou les Monégas.
Oui, ce serait tout de suite plus intéressant
pour le score.
Ouais.
Mais bon, c'est quand même pas un match extraordinaire, mais assez plaisant quand même.
Ah, allez, ça revient, messieurs. Ça revient, c'est mieux. C'est mieux. 61e 0-0 à l'instant. Encore une fois, une occasion. Une situation sur la cage monégasque, une frappe de Sébastien Korchka. Ils sont bien à la récupération, beaucoup mieux. Hein. Les Nantais, ils se projettent vite vers le but de Noble. Et là, ce sont les monégasques qui sont à l'attaque.
Avec Jelson Martins, le centre au deuxième poteau. Kevin Folland, on n'arrive pas à le trouver, l'attaquant allemand. Sans Wissam Ben Yedder, il erre un petit peu seul dans la surface de réparation. Il a du mal à être le point de fixation, le point d'appui de l'attaque monégasque. Le ballon qui va filer jusque sur la gauche au niveau de la ligne médiane. Guillermo Maripane relance le ballon avec son capitaine Tchouaméni. Et puis Caio Henrique
qui met au deuxième poteau, mais c'est bien défendu de la part de Quentin Merlin. La récupération derrière des Nantais et le long ballon de Chirivella vers la vitesse de Colomouani qui s'échappe sur le côté gauche. Colomouani une nouvelle fois, est-ce qu'il va y avoir une faute? Ouais, faute de l'attaquant Nantais sur il me semble sur Matsima. Ça doit être ça qu'avait bien défendu,
c'est dommage, hein,
sur...
parce qu'il y avait corner.
Il y a sorti de but finalement, il y a faute.
Il y a faute de Colomouani et les Monégasques à nouveau à l'attaque.
Avec Sofiane Diop, juste au niveau de la ligne médiane, dans le rond central, vers son capitaine Aurélien Tchouaméni. Mais le contrôle de Randall Colomouani de la tête pour se remettre dans le bon sens, c'était vraiment magnifique. On comprend pourquoi Fribourg a tenté de mettre 9 millions d'euros sur cet attaquant qui a déjà marqué 7 fois en Ligue 1, donc dans la première partie de saison, puisque c'est la 20e journée de championnat. Tchouaméni au milieu de terrain, il n'a pas de solution. solution. C'est pas l'équipe ambitieuse qu'on avait vue lors du premier quart d'heure. Ça pédale un peu dans la semoule là du côté monégasque, même si là ils vont obtenir un bon coup franc. 62 minutes 40 secondes de jeu, toujours 0-0. Tchouaméni qui reste au sol, ça va donner un coup de pied arrêté à 35 mètres pile dans l'axe des cages d'Alban Lafont.
Ouais, la faute de Thierry Vela sur Tchouaméni. Tchouaméni, le capitaine monégasque qui s'est relevé. Comme tu le disais, Aurélien, coup franc plein axe pour les monégasques. Ouais, on est à 35 bons mètres de la cage d'Alban Lafont. 63 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0-0 toujours entre Nantes et Monaco. Et qui va frapper ce coup franc? Il y a Caio Henrique, hein, il me semble, qui a posé le ballon. Ça doit être ça, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Le mur nantais se mettre à distance réglementaire. Il est composé de Blas et de Chirivella. Et c'est Caio Henrique, effectivement. Il y a Diop également avec son pied droit qui est là. Et je pense que ça va être plutôt être un centre, à mon avis, Aurélien.
Oui, parce qu'on est bien trop loin pour inquiéter Alban Lafont. Le mur, il est simple. C'est Ludovic Blas tout seul. La feinte de Diop, c'est tiré par Caio Henrique avec son pied gauche. Matsima battu dans les airs par Nicolas Palois et sa grande carcasse. Le ballon repris par Ismaël Jacobs. On repasse dans l'axe et le rond central. 0-0 après 63 minutes et 50 secondes de jeu. Et les belles intentions ont repris le dessus. On ne s'ennuie plus à la Beaujoire.
Allez, okay. Ballon pour.
Ouais, oui, c'est la petite musique de la pause.
Il est bavard, le garçon, il lâche pas comme ça le crachoir. Il y a eu une grosse occasion pour le Cameroun, il y a même eu un but mais qui a été refusé, hein, Morgan.
Mais le drapeau de l'arbitre assistant a levé le drapeau pour un hors-jeu sur ce 3 contre 2 en compte des Camerounais. Le ballon est entré dans les cages, refusé pour hors-jeu, mais le jeu est maintenant arrêté. La scène est en train d'être revue par le camion vidéo. Christophe, peut-être une bonne nouvelle pour les Camerounais annoncée dans un instant. Toujours 2 buts à 1, 60e minute.
Et il est 18h21, on revient dans un instant, on va faire un tour à Lyon dans quelques minutes. Edouard, Jeannot sont en place. 20h45, vous le savez, le choc de cette 20e journée entre Lyon et le Paris Saint-Germain. A tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Dans un instant, direction Lyon pour vous présenter la dernière rencontre de cette 20e journée qui aura lieu tout à l'heure à 20h45 entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Auparavant, le temps, le score sur les deux pelouses, Ligue 1 et Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations pour commencer, Morgane. Cameroun, Burkina, est-ce que le but camerounais a été accordé?
Non, refusé. 65e minute, toujours 2-1 pour le Cameroun face au Burkina Faso.
Et puis le match entre Nantes et Monaco, là, il s'agit de Ligue 1, messieurs.
22 minutes encore à jouer, 0-0 et un double changement, les derniers changements d'ailleurs de Philippe Clément. Vanderson, double ration de nouveauté après Clément. Donc Vanderson, le latéral brésilien, remplace Jelson Martins. C'est Myron Boadu, l'attaquant néerlandais, remplace Kevin Volland. 0-0, donc 21 minutes à jouer.
Allez, direction Lyon, il est là, il nous attend. Jeannot, il est en place, ses petites notes sont devant lui, il a son masque à proximité. Il est paré et il peut tenir un siège pendant des années hein, s'il le faut. Ça va, mon Jeannot? Allô.
Salut, coach.
Allô.
Je suis là.
Ah, tu es là.
Bonjour.
Salut, Jeannot.
On l'entend. Ouais, je suis là, j'ai pas bougé.
T'as pas bougé?
Vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend bien, parfaitement. Ouais.
Voilà.
On entend même ton masque.
Oui, ça, bah oui, c'est normal, ça.
Bon, comment ça se passe, Jeannot? Bon, il y aura pas grand monde ce soir. Hein,
là, bah, 5000 personnes, voilà, la jauge. Donc, oui. Du coup, c'est un peu dommage, bien évidemment, pour ce genre de match, mais c'est comme ça. C'est la Covid, c'est les mesures gouvernementales et. Et il faut s'y plier dans un match particulier parce que on en parlait avec Edouard G là, il y a 2 minutes, 22 points d'écart au classement entre le Paris Saint-Germain, le leader, et l'Olympique Lyonnais 13e. C'est abyssal, les gars. Quand on parle de Lyon qui est l'équipe depuis QSI qui a le plus souvent battu le Paris Saint-Germain. Oui. Quand on se rappelle de matchs compliqués pour les Parisiens face à l'Olympique Lyonnais. Alors après, on peut parler aussi de Mbappé qui est en pleine réussite face à Lyon aussi. Mais bon, quand on se rappelle du match aller, coach, tu as raison.
Ah oui, c'est sûr.
Avec ce but d'Icardi à la 93e. Voilà, c'est un peu surprenant de parler de cette affiche de cette manière-là avec autant de différences d'un point de vue mathématique au classement et peut-être aussi au niveau du terrain, au niveau tactique, coach, même si, encore une fois, il va manquer du monde à Paris. Il n'y aura pas Messi, il n'y aura pas Neymar. Ça fait un petit moment maintenant, mais il y a surtout Kylian Mbappé dans le secteur offensif qui est tout simplement énorme. Il a fini l'année en trombe et il l'a démarré quasiment au même niveau, quoi. Donc, pour les Lyonnais, l'interrogation, c'est Paqueta. Comment va-t-il être? Est-ce qu'il va être capable, lui qui sort du Covid, avec simplement 3 séances d'entraînement, de porter cette équipe de Lyon, d'être titulaire dans un schéma qui peut à ce moment-là être corrigé en 4-2-3-1 si Paqueta venait à jouer, à débuter. Sinon, on resterait sur la base les trois défenseurs axiaux et à ce moment-là permettre à Cherki d'accompagner Dembélé avec Aouar. Ça, c'est les choix de Peter Bosz. On en sera un peu plus dans les prochaines heures. Après, le Paris Saint-Germain, Donnarumma est touché par la Covid, donc Navas, dans le turnover, sera titulaire. Kimpembe, Marquinhos, avec Nuno Mendes et l'interrogation Dagba ou Kerrer dans le côté droit de la défense. Paredes, Verratti, Herrera, ça ressemble à ça au milieu de terrain. Et puis Icardi en numéro 9, Mbappé sur le côté. Et plus Wijnaldum que Simons, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que ces jeunes-là, Simons, et on peut parler de Michu aussi à Vannes, ont fait de bons matchs. Simons a enchaîné deux matchs de Coupe de France où il a été bon. Et peut-être que ce soir, il ne sera pas titulaire. Donc ça, c'est un peu surprenant aussi de la part de Pochettino, qui a peut-être aussi envie d'amener une équipe au moment du coup d'envoi, avec l'expérience nécessaire, pour justement se méfier de cette équipe de Lyon et d'éviter de mauvaises surprises.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est quand même incroyable cette différence de points. Et c'est Lyonnais qui sont dans l'obligation, coach, hein, qui sont dans l'obligation maintenant d'accélérer un peu le mouvement. Hein, on rappelle qu'ils sont en difficulté sportive, mais pas que.
Il y en a beaucoup de tournants, mais ce match de ce soir, ça pourrait changer beaucoup de choses pour les Lyonnais.
Lyon reste sur 5 matchs sans victoire, donc 4 matchs nuls, une défaite, c'était face à Reims. C'est une équipe qui a eu du mal en fin d'année. On se rappelle ce qui s'est passé avec la Coupe de France, on se rappelle ce qui s'est passé aussi avec le match ici contre Marseille. Tout ça, ça a marqué les épisodes, des épisodes différents, et puis le départ de Juninho aussi. Donc voilà, c'est un club, même si Peter Bosz a reçu le soutien de son président et du patron du football à Ponceau, ça veut dire quelque part que l'équipe de Lyon va se retrouver avec des joueurs ce soir face à leurs responsabilités, et peut-être de démontrer au peu de public, aux téléspectateurs, aux auditeurs, que cette équipe de Lyon n'est pas définitivement morte et qu'elle peut revenir déjà dans la première partie du classement et espérer, avec la victoire à 3 points, comme dirait coach, d'enchaîner les bons résultats et de se retrouver dans une position, on va dire, un peu plus normale pour le standing de l'OL.
Un mot, Jeannot, concernant le Paris Saint-Germain, dont la plupart des vedettes ne sont pas là. Messi, qui est rentré d'Argentine, mais on lui a laissé quelques jours supplémentaires pour se remettre du virus. Et puis Neymar, qui lui devait rentrer aujourd'hui, je crois, à Paris, hein, mais qui évidemment ne sera pas sur la pelouse avant encore quelques semaines.
Oui, mais bon, de toute façon, lui, il est dans une phase de réathlétisation, sous la surveillance d'un des membres du staff médical et sportif du Paris Saint-Germain. Donnarumma, Danilo, Kurzawa, Di Maria touchés par la Covid, Hakimi, Gueye et Diallo à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça reste quand même un effectif amoindri, c'est clair.
Des stars, il y a Di Maria aussi qui n'est pas là.
Oui, c'est ce que j'ai
dit. Oui, touché par la Covid.
Ouais. Ouais. Bon, alors du coup, il y a plein de petits jeunes qui ont été appelés pour ce match. Alors, je ne sais pas s'ils seront sur la pelouse tout à l'heure, mais en tout cas, ils ne sont pas au bout d'envoi.
Oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ce sont des jeunes, on pense à Garbi, je parlais de Simon tout à l'heure, je parlais de Michu. Ce sont des joueurs qui ont participé déjà à la reprise de la saison, qui ont participé à des matchs de préparation, qui avaient complètement disparu, qui sont revenus avec des temps de jeu, on va dire, assez disparates, mais qui finalement ont eu des possibilités avec la Coupe de France, et notamment le néerlandais Simons. Est-ce que ces joueurs-là vont avoir du temps de jeu ce soir? Le seul éventuellement qui peut être titulaire, à mon sens, c'est Simons. Après, est-ce qu'il peut rentrer en cours de match suivant la physionomie de la rencontre? Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu à Marseille, on l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu aussi avec Rennes, aujourd'hui avec la Covid, aujourd'hui avec la CAN, les coachs sont obligés de tenir compte justement de cette jeunesse et de ces jeunes joueurs pour les mettre sur la feuille de match et leur donner la possibilité d'avoir du temps de jeu. Mais ce sont les circonstances qui font ça. C'est un peu regrettable, c'est un peu dommage, surtout quand tu vois que certains ont prouvé qu'ils avaient les moyens de s'imposer dans l'équipe, et notamment au Paris Saint-Germain.
Parfait. Bien, on espère qu'on va se régaler malgré tout ce soir. Roland, tu penses que ce match devrait être très agréable à suivre?
Ouais.
C'est toujours des matchs sympas.
Je l'espère, mais je le pense aussi.
Ouais. Eh bien, nous verrons ça. Donc, 20h45, ils seront deux duos incroyables, inégalés, inégalables. Jeannot Rességuet, Edouard G. Tout à l'heure. Merci, Jeannot. À tout à l'heure.
Tout à l'heure. Ciao, Jeannot.
Pour ce Match vedette de la 20e journée, l'avant-dernière rencontre, eh bien, elle est toujours en cours, elle n'a toujours donné lieu à aucun but. On commence à désespérer, David et Aurélien, à la Beaujoire, entre Nantes et Monaco.
Oui, 76 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0-0 donc entre Nantes et Monaco. Cambouaric a effectué deux changements. Ludovic Blas est sorti et également c'est Pereira Dessa remplacé par Marcus Coco et Ousmane Boukari. Ils sont mieux, les Nantais. Ils étaient très bien même en début de seconde période, mais on les voit un petit peu moins. Ça s'est un petit peu équilibré quand même ce match et on se dirige tout droit vers un 0-0 malheureusement, mon cher Aurélien.
Bah, c'est une petite reprise, voilà, c'est la 20e journée de Ligue 1, les fêtes, le tour de Coupe de France. Il n'y a pas eu beaucoup de buts mine de rien. Bordeaux-Marseille, c'était assez tristoun. Brest-Nice, certes, il y a eu des buts. C'était attention à Mahrone Boadu dans la surface de réparation. Il croise trop Mahrone Boadu. Le contrôle du droit était parfait après la petite déviation de Caio Henrique et l'ouverture de Sofiane Diop. Et là, il reste prostré dans les 6 mètres d'Alban Lafont parce qu'il était vraiment seul face à l'attaquant, face au gardien nantais. Et avec son pied gauche, il vient beaucoup trop croiser cette frappe qui fuit le cadre. 0-0 toujours entre Nantes et Monaco. Mais là, c'est la grosse occasion des hommes du Rocher, celle qui n'était pas venue depuis un bon moment,
ouais, désormais. Ça aurait pu lui faire du bien parce que depuis le début, il ne fait pas grand-chose.
Ouais, c'est clair. Mahrone Boadu qui était un excellent attaquant des Eredivisie, donc le championnat néerlandais, et à part un petit but en Ligue 1, il n'a rien fait cette saison, Mahrone Boadu. Et bon, on espère que Philippe Clément, néerlandophone comme lui, pourra peut-être lui apporter conseil et confiance pour la suite de la saison. Mais là, c'est clair que ce genre de face-à-face raté, ça va pas le remettre dans le bon sens. 77 minutes de jeu, 0-0 donc entre le FC Nantes et l'AS Monaco.
Je sens bien le 0-0 à la fin de la rencontre, Roland, non ?
Pas sûr. On a vu quand même du côté de Lens, Lens-Rennes, bon, on pensait qu'il allait y avoir des buts, et puis finalement, on pensait au 0-0, et quand on a pensé au 0-0, il y a eu un but. Donc c'est
eh ben voilà, c'est histoire de déclencher le but, peut-être que j'ai dit ça. Ça a peut-être marché, on l'espère en tous les cas. Toujours 0-0, 77e minute de jeu, Cameroun-Burkina Faso, Morgan Mori. Là, on a des buts, hein.
2-1 pour le Cameroun et les Lions indomptables, Christophe, qui sont en train de mettre leur étreinte sur le Burkina Faso, de serrer de plus en plus fort grâce aux entrées de Eric Maxim Choupo-Moting et Clinton NG à l'origine d'une très belle action et qui a failli se conclure par un but de Franck Zambo-Anguissa. Nouvelle occasion derrière pour les Camerounais avec un tir qui a frôlé les montants de la cage burkinabé. Ça fait toujours 2-1 pour le Cameroun face au Burkina Faso dans ce match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Dernier quart d'heure de cette rencontre du groupe A.
Alors on connaît les Lions indomptables, hein, c'est évidemment le surnom de cette équipe du Cameroun. Roland, tu connais le surnom du Burkina ?
Non.
Les étalons.
Oh. Voilà. Pas mal, tout un programme. Les étalons du Burkina Faso. Voilà pour. Et alors, le Cap Vert, tu connais, non ? Non, tu connais pas le Cap Vert ?
Ben oui, je connais.
Oui, mais alors, le surnom ?
Ah, ben non.
Eh bien, ce sont les requins bleus du Cap Vert.
Ah, les requins bleus.
Ouais, les requins bleus du Cap Vert.
D'accord.
Ben ouais, il faut savoir ça. Parce que toutes les équipes africaines ont des surnoms très colorés, très imagés. Ça nous régale.
T'as l'Ethiopie, Christophe, du coup,
hein ? Pardon ?
T'as l'Ethiopie, du coup, le dernier ?
Alors, l'Ethiopie, non, je l'ai pas. Peut-être Morgan, il l'a, mais j'ai pas l'Ethiopie.
Non.
On va vérifier ça pendant la pause.
Ouais.
Si je dirais les antilopes, mais je suis pas sûr.
Les antilopes d'Ethiopie.
Je sais pas, ça me parle.
Il y en a des antilopes en Éthiopie. Bon, on va vérifier ça. On va vérifier
les
ça.
Lions indomptables.
Ah, les lions indomptables, on sait
pas.
Moi, j'ai
les Walia, c'est une sorte d'antilope en effet.
Ah, c'est bien, bah, tu vois. Ah. Les antilopes d'Éthiopie.
Les Walia, non, on dit les Walia.
Ah, les Walia,
Walia-Éthiopie.
Ça sonne moins bien. Enfin, c'est... Ah. Très bien, 18h37, on va parler d'animaux comme ça jusqu'à la fin du match. S'il n'y a toujours pas de but entre Nantes et Monaco, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
18h40, il reste quoi ? Moins de 8 minutes pour espérer trouver un vainqueur à ce match entre Nantes et Monaco. Roland me disait en antenne, franchement, ça, un 0-0 dans ce match-là, jamais j'y aurais cru, quoi.
Non, mais ça fait deux fois que j'ai dit la même chose.
Et peut-être ici avec Boadu, le ballon qui va passer à côté d'Alban Lafont. Il y avait en jeu, de toute façon, de l'attaquant néerlandais.
S'il y avait Pagnol, il appellerait le rateur.
Le
rateur.
Le rateur, d'accord.
Celui qui rate.
Oui.
C'est vrai qu'il rate beaucoup.
C'est peut-être le nouveau surnom de l'équipe de Monaco. Ok, 0-0 toujours donc. Hein.
Toujours oui. 0-0. Ouais, 84 minutes.
Très bien. Petit détour par le Cameroun. Cameroun-Burkina Faso, Morgane.
Les 10 dernières minutes, Cameroun 2, Burkina Faso 1. Les étalons réclament une main dans la surface de réparation. Ouais. Ce n'est pas accordé pour l'instant. 2-1 pour le Cameroun face au Burkina Faso. Les 10 dernières minutes de cette première rencontre de la compétition. On est dans le groupe A avant la rencontre de ce soir entre le Cap Vert et l'Éthiopie.
Entre les antilopes et les requins bleus, tu veux dire, hein, ce soir. Hein, parce que les antilopes, ouais, là, hein, ce sont le surnom de l'équipe éthiopienne. Tiens, les deux malins, tiens, à Nantes. Il y a trois équipes africaines qui sont assimilées à des lions. Quelles sont ces trois sélections?
Cameroun, ouais. Sénégal, ouais. La Teranga.
C'était un élevage.
Un élevage de lionceaux, ouais. Et les derniers?
Les autres lions.
C'est plus au nord de l'Afrique.
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien joué.
Les lions de l'Atlas, évidemment le Maroc. Ouais. Voilà, on a plein comme ça d'équipes avec des surnoms d'animaux, c'est magnifique. Messieurs, on reste avec vous quand même parce qu'on espère
surtout
un petit
Il reste 5 minutes, 0-0. La Monaco va finir à 10, hein, puisqu'ils ne peuvent plus faire de changement. Et Boadu est touché, et l'ami de Roland Courbis, eh bien, il ne reprendra pas le jeu. Et les Monégasques qui vont donc jouer ces 5 dernières minutes du temps réglementaire à 10, 0-0. Donc, on vous le rappelle, entre Nantes et Monaco.
Si je dis pas de bêtises, ils ont fait. Ils ont échangé 4 joueurs, mais comme ils se sont servis
des 3 séquences.
Des 3 séquences, ouais. Donc ils jouent à 10.
Exactement, exactement.
Ouais. Ben heureusement que c'est pas Kovac qui fait ça. Hein.
Alors après, pas de chance pour Philippe Clément, puisque Sidibé s'est blessé en tout début de match. Puis Benoît Badiachil, deux défenseurs qui se blessent coup sur coup en première période. Et du coup, deux changements sur deux séquences en première mi-temps. Il a ensuite remplacé Boadu et Vanderson à la place de Voland et Gélin. Et pour l'instant, ça n'a pas eu l'effet escompté, puisque les offensives monégasques auraient pu aboutir grâce à Myron Boadu, mais le Néerlandais a raté ses deux occasions, dont un face-à-face énorme avec Alban Lafont. Mais les Nantais sont à l'attaque avec Marcus Coco.
Marcus Coco, ouais, qui pousse trop loin son ballon. C'est bien récupéré par les Monégasques avec la contre-attaque à venir de Diop. Et finalement, Coco qui se bat pour récupérer le ballon. Il n'y aura pas faute, estime l'arbitre. Et c'est donc une nouvelle contre-attaque pour les Nantais avec Korchia. Korchia qui décale sur le côté droit pour le numéro 26, je suis en train de chercher
Ousmane
Boukhari, pardon, le Ghanéen qui revient derrière, il peut donner à Denis Appia. On est complètement revenu très très loin de la cage de Nubal avec c'est Giroto qui écarte sur le côté gauche là-bas pour Quentin Merlin, le centre peut-être à venir de Quentin Merlin, qu'est-ce qu'il va faire, il repique dans l'axe, il peut donner à Kolo Muani, mais il y a beaucoup trop de Monégas et c'est dégagé par la défense Monégas.
Le contre à venir avec Vanderson, le latéral brésilien, l'ancien de Grêmio Porto Alegre qui dispute ses premières minutes en Ligue 1, ses appels ont été intéressants. Mais là physiquement il n'a pas tenu le choc, le ballon perdu et le ballon pour Marcus Coco qui entre dans la surface de réparation monégasque. Le centre en retrait vers Moutou Sami, la bonne intervention d'Aurélien Tchouaméni qui a été appelé tout à l'heure par Philippe Clément pour réorganiser son équipe. Le ballon toujours dans les pieds nantais, on est sur la gauche de la surface de réparation.
Ouais, et le centre de Corse de Merlin directement dans les bras de Nubal. Il reste 3 minutes 20 dans le temps réglementaire de ce match. Et ouais, j'ai bien peur qu'on ait droit à ce 0-0 hein, cet après-midi à la Beaujoire. Le gardien monégasque qui va chercher à gagner un petit peu de temps. Bah oui, les monégasques, ils jouent à 10. Hein, et Philippe Clément ne peut pas faire de changement. Et Boadu est sorti sur blessure. Avec Maripane qui cherche très très loin pour Caio Henrique. Et c'est finalement Appia qui peut récupérer le ballon derrière.
Et attention parce que Caio Henrique là s'arrête et il s'est fait un petit peu mal au genou droit visiblement. Caio Henrique qui finit la partie presque avant-centre, il alterne avec Sofiane Diop, cette fois c'est le jeune français qui vient au pressing, alors qu'un dernier changement côté nantais et l'entrée à venir de Renaud Aymon, l'attaquant belge, va intervenir. 2 minutes et 40 secondes encore dans ce match. Il y aura vraiment eu des hauts, bon pas très haut non plus, des bas, ça n'a pas été un grand match de football, ça peut encore s'énerver dans les dernières minutes. 0-0 entre Nantes et Monaco.
2 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire. Là, les Monégasques avec c'est bien joué Tchouaméni tout près de la ligne médiane et qui peut écarter sur le côté droit, et c'est pour Matadzo encore qui peut donner à Aguilar, mais le bon pressing nantais alors que Renaud Aymon va entrer dans quelques instants dès qu'il y aura un arrêt de jeu avec les Monégasques qui sont dans la surface de réparation, et c'est Alban Lafont qui va sortir, qui va se coucher sur un ballon et qui va pouvoir relancer tranquillement. Renaud Aymon ne peut toujours pas entrer et c'est Marcus Coco qui amorce une contre-attaque pour le FC excellente.
Allez, les deux dernières minutes du temps réglementaire. Marcus Coco vers Randal Colomoun, il a remise vers le Guadeloupe, hein, Pedro Chirivella dans le rond central, totalement à droite, direction Sébastien Corchia. Il y a encore un appel d'Osman Boukhari. Corchia va choisir la solution axiale avec Chirivella, Moutou Sami, André Giroto qui est monté très très haut, l'ancien milieu de terrain, le Brésilien qui va aller jusque sur le côté gauche. Et Quentin Merlin n'a pas de solution. Les Monégasques défendent tous dans la surface de réparation sauf Sofiane Diop, et les Monégasques n'arrivent pas à contrôler le ballon. 1 minute 30 encore, 0-0.
Corchia à l'entrée de la surface de réparation pour l'FC Nantes, le centre de Corchia, mais c'est bien dégagé de la tête par Aguilar, c'est récupéré derrière par Giroto. Les Nantais qui poussent maintenant dans ce match, ils sentent qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose. Quentin Merlin là qui est devancé par Aguilar qui défend bien. Il reste 1 minute 10 dans le temps réglementaire. On va pouvoir effectuer le changement et c'est Renaud Aymon donc qui va entrer. Ouais, Camboire, il sort un défenseur et il fait rentrer Renaud Aymon évidemment. Hein, les Monégastes sont à 10 hein, depuis la sortie sur blessure de Boadu et le fait que Philippe Clément ne puisse pas faire de nouveaux changements. C'est donc le Belge Renaud Aymon qui va tout de suite se mettre dans la surface de réparation monégasque.
Bon, après le défenseur de Nice à pied, l'attaquant Renaud Aymon, a marqué le même nombre de buts en Ligue 1 depuis qu'il est là, Renaud Aymon. Mais bon, c'est quand même un point en plus pour la défense monégasque. Et là, la faute, le ballon conservé de manière illicite par Randal Colomoun qui réclamait une faute, qui a touché le ballon un petit peu avec la main. Et monsieur Thomas Léonard redonne le ballon aux monégasques qui vont prendre évidemment tout leur temps pour dégager. Il reste 25 secondes dans le temps réglementaire. Et ben non, ils me font mentir, ils jouent rapidement le ballon. Et Alexander Nubel rate son dégagement. Heureusement pour lui, il atterrit dans les pieds d'Eliott Matazo. Le petit ballon de l'extérieur du pied de Diop pour Caio Henrique qui dégage sur Van der Sande sur le côté droit. Le Brésilien qui fait la rencontre de Nicolas Palois. Le défenseur va même obtenir la sortie de but. Ça paraît évident.
Ah, oui. Il a bien réclamé comme il fallait à l'arbitre de touche. Et l'arbitre de touche l'a écouté. Hein. Il a indiqué le 6 mètres. Et il y aura 3 minutes, Aurélien, 3 minutes de temps additionnel. On vient justement d'entrer dans le temps additionnel. Le ballon dans les pieds des Nantais et de Giroto et de Chirivella.
Et toujours dans la partie de terrain des Canaries. La pression d'Aurélien Tchouaméni, ça oblige André Giroto à repasser par son gardien et capitaine Alban Lafont. Nicolas Palois, lui, va gagner du terrain avec son short remonté et ses chaussures orange fluo. Il repasse avec Chirivella dans le rond central. L'ouverture cette fois vers Corchia sur le côté droit.
Corchia sur le côté droit, le centre à venir de Corchia. Ouais, il est finalement intercepté par Boukhari, ce centre qui remet à Corchia. On est sur le côté droit de l'attaque nantais. Corchia toujours le latéral qui centre et il est contré par les Monégasques et Maripane qui va pouvoir dégager tranquillement avec Diop. Diop, c'est bien joué pour Caio Henrique peut-être. Non, Diop qui tente un geste technique, mais c'est bien repris par Giroto. Le ballon toujours dans les pieds. Oh, la relance là de... Oui, c'est de relance Monégasque pour Nubel et Colomoini a bien failli intercepter le ballon.
Oui, et Maripane qui est Ouspi assez fort, Ismaël Jacos, parce qu'il lui dit dégage devant, loin devant. On n'a pas besoin d'une passe molle vers notre gardien à 2 minutes de la fin du match. Moins de 2 minutes désormais dans le temps additionnel. Maripane et Tchouaméni sortent le ballon. Sofiane Diop, pied contrôle qui peut donner à Eliott Matazo. Voilà. Il y a un 3 contre 2 pour les Monégasques. 3 contre 2 avec Eliott Matazo face à Nicolas Palois. Il y a la solution de Tchouaméni à droite. Le bon retour de Moutou Sami. Ils l'ont joué un petit peu à 2 à l'heure ce contre avec Eliott Matazo. Et désormais les Nantais peuvent y aller. Mais le tacle de Krilin Matsima, ça va d'un but à l'autre. On va peut-être le voir, notre but. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel.
Avec Colomoini pour le FC Nantes, plein axe. Colomoini toujours. Colomoini. Oh, il a essayé de donner à Boukhari, mais finalement, il a perdu le ballon et le tac de Colomoini là qui peut. Il y aura une contre-attaque peut-être à suivre pour les Monégasques avec Diop. Sofiane Diop qui peut donner à Matazo. Matazo, on va écarter sur le côté droit. Et finalement, Matazo toujours. Et l'interception de. Oh là là, la bonne occasion pour les Monégasques et la perte de balle du FC Nantes.
Bon, Van der Sande à l'entrée de la surface de réparation avec Diop. Le petit décalage pour Matazo, mais il a plus rien dans les chaussettes. Il court dans tous les sens, Matazo. Ça fait deux fois qu'il termine au sol en 30 secondes. C'est un peu du aura football dans ces dernières secondes. Oui, on perd le ballon qui brûle les pieds de tout le monde, des 21 acteurs, puisque Monaco est à 10 après la sortie sur blessure de Myron Boadu, alors que Philippe Clément avait déjà effectué ses trois séquences de remplacement. Il va rester 30 secondes dans cette partie. Et les Nantais, encore une fois, à l'attaque sur le côté gauche.
Côté gauche avec Coco. Coco qui repique dans l'axe. Oh, la mauvaise passe de Coco pour Moutou Sami. Et c'est récupéré finalement par les Monégasques qui restent 20 secondes dans le temps additionnel. 0-0 entre le FC Nantes et l'AS Monaco. Peut-être une dernière attaque pour les Monégasques.
Avec Van der Sande, le Brésilien, il est jeune, il a 20 ans, il vient de rentrer, il a encore du pep celui avec Sofiane Diop. Il y a Tchouaméni dans l'axe, il y a Matazo également. Et la passe à l'épile entre Jacobs et Tchouaméni. Le ballon est perdu. Mais quel tacle de l'international français. Les Nantais vont quand même être plus rapides, plus prompts sur le ballon avec Moutou Sami devant le rond central. Il y a l'appel de Boukhari à droite. tient l'appel d'Aimon. Et c'est le Belge Aimon qui va contrer le ballon. Il va pas s'en sortir de ce ballon-là. Ouais. Monsieur Lonard dit stop.
Il est temps qu'on, voilà.
Il est temps d'arrêter. Ça ne passera pas ce soir. 0-0 entre le FC Nantes et l'AS Monaco. 0-0 pour la première de l'entraîneur monégasque Philippe Clément.
Merci les gars, je vous félicite pas, mais bon c'est comme
ça. Non, mais ça sera mieux la prochaine fois.
Bah oui, bah ça sera toujours mieux, ouais. ça ne peut être que mieux. Félicitations à Johan Guillet quand même, qui est bien meilleur présentateur et pronostiqueur surtout que Roland, puisqu'il nous avait annoncé le 0-0 avant le début du match quand même. Ah, tu aurais dû l'écouter Roland, tu vois.
Ouais, mais bon.
Tu l'écoutes pas.
Si je commence à pronostiquer des 0-0 et qu'en plus j'ai la chance de me tromper, je vois les matchs à 0-0, non, excuse-moi.
Christophe avait dit donne le bon conseil à coach et je l'ai fait coach.
Il écoute pas ce qu'on lui dit.
Comme ça,
comme ça. Je ne vais pas me changer maintenant. Mais... je suis né têtu.
Merci Roland. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce
match. Merci. Donc il y a quelque chose à dire.
Il y a des choses à dire. Voilà, alors dis-le.
On ne sait pas ce qui se serait passé si c'était Kovac qui était sur le banc.
Et oui, forcément, c'est sûr. Ça aurait changé les choses. Très bien, merci mon Roland. On rappelle le dernier match, 20h45, ce soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et puis dans une dizaine de minutes, on va vivre un autre match, non pas de foot, mais de hand, avec le seul match de préparation de l'équipe de France, championne olympique, on vous le rappelle. Avant l'Euro, l'équipe de France qui affronte l'Allemagne, ça se déroule à quelques kilomètres de Francfort. C'était pas le match programmé au départ. Arnaud Baladon est avec nous, il n'est pas à Francfort,
bon, mais
il
assume
le match. Ça va Arnaud ?
Et oui, c'est à Wetzlar pour être précis, dans une petite salle, parce qu'on n'a plus joué les Allemands en amical depuis 15 ans. Alors pourtant, des France-Allemagne en hand, ça marque un petit peu. On se souvient de 2007 notamment, ou encore 2019, on s'est affronté en compétition internationale, mais plus en amical depuis 15 ans. Et il a fallu monter ce match pour que les Bleus, avant l'Euro qui débute le 13 janvier prochain, donc la semaine prochaine, avoir un match amical, parce que les Bleus devaient jouer l'Égypte deux fois, sauf cas de Covid dans l'équipe égyptienne. Donc plus de matchs amicaux, et donc ça s'est fait comme ça à la hâte la semaine dernière avec un avion privé. Les Français se sont envolés pour donc la banlieue de Francfort. Ils vont disputer ce match dans quelques instants avec une première, Nicolas Karabatic, capitaine de l'équipe de France.
Jamais
capitaine des Bleus, parce qu'avant il y avait Olivier Giroud que l'on connaît bien, Michael Guigou encore récemment, et évidemment il a fallu donc s'adapter, puisque Valentin Porte, le capitaine numéro 1, est positif à la Covid. Il est resté tout seul à la maison du handball à Créteil, et donc c'est un intérim opéré par Nicolas Karabatic. On rappelle qu'il y a quand même d'autres absents de marque, le frère de Nicolas, Luka Karabatic, le pivot absent, ça c'est un pour tout l'Euro, ça c'est problématique. Et puis également les forfaits de Nedim Remili, blessé un pied, et d'Elohim Prandi aussi, avec cette affaire, ce fait divers, puisqu'il s'est fait attaquer au couteau le soir du réveillon du 31 décembre. Donc Guillaume Gilles a dû composer un petit peu avec tout ça pour cet Euro post-olympique, puisque ce sont les champions olympiques en titre. Ça va démarrer le 13 janvier prochain, donc dans 4 jours, avec un Croatie-France, où là la Croatie a également des gros absents dans son effectif. Les deux meilleurs joueurs sont positifs
tout
à la Covid.
Dans une bulle
dans une bulle à Szeged, au sud de la Hongrie. Donc c'est un format de premier tour avec des poules disséminées partout en Hongrie et en Slovaquie, le co-organisateur. En Slovaquie, ça sera 25% en tribune. En Hongrie, 100%. Il y aura 100% du public en Hongrie. On peut encore acheter des billets. Donc voilà ce contexte un petit peu pour cette équipe de France qui va nous disputer un seul match de préparation. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, plus à se remettre en jambes. On a Vincent Gérard, victime d'un drame familial, qui a manqué une bonne partie de la préparation pendant les fêtes et juste après. Donc il va peut-être être remis un petit peu en selle. Voilà, c'est pas facile pour les champions du monde en titre d'aborder les champions olympiques en titre d'aborder cet Euro 2022, à suivre évidemment avec Nicolas Paul-Orsi, qui sera dès cette semaine sur place à Szeged en Hongrie pour ce premier tour. Croatie, Ukraine, Serbie, trois matchs. Faut terminer dans les trois premiers sur quatre. Je crois que c'est bien les trois premiers. Et ensuite, vous avez un tour principal à Budapest où les Bleus retrouveront également du lourd. Donc voilà, cette équipe de France de handball, va y avoir beaucoup de nouveaux visages. Mmh. Si je te dis Thibaut Brillet, Emeric Mine, peut-être que ça te parle. Julien Bosse de Montpellier. Voilà, bon, il y a encore quand même de très beaux noms. Hein.
Pas grand-chose qui me parle.
Non, mais Nicolas Karabatic, Hugo Descartes.
Ah oui, Nicolas Karabatic, je connais celui-là.
Ludovic Fabregas, Quentin Mahé. 325e
sélection quand même, et première fois capitaine quand même. Il faut attendre la 325e sélection pour lui filer le brassard quand même. quel scandale. Merci Arnaud. Match à suivre avec toi dans quelques instants, avec Thibaut et Oussem qui vont prendre le relais dans quelques instants. Morgane, Maury, les dernières secondes de ce Cameroun, Burkina Faso. Oh là là, temps additionnel, plus de 4 minutes.
Oui, plus de 4 minutes, 5 on minutes annoncées par le quatrième arbitre. La dernière cartouche burkinabé, c'est un corner de la droite vers la gauche. Les étalons du Burkina Faso qui sont dominés, qui sont menés 2-1 par le Cameroun. 2 buts de Vincent Aboubakar sur pénalty en première période. Leur dernière chance, c'est vraisemblablement ce corner de la droite vers la gauche, bien le tiré pour aller placer pourquoi pas une tête. Tous les Burkinabés pratiquement sont dans la surface de réparation en jouant deux temps pour tenter un corner ouvert avec le numéro 20 de la sélection burkinabé dans l'angle de la surface de réparation. Son centre est contré et le contre justement va s'amorcer pour les Camerounais. Un 3 contre 3 à jouer et c'est ce qu'on fait pour les Lions Indomptables. La reprise du numéro 25 à l'entrée de la surface de réparation, elle n'est pas contrôlée. On va dépasser les 5 minutes de temps additionnel dans un instant. Christophe et l'arbitre qui met le sifflet à la bouche. C'est terminé. Le Cameroun réussit son entrée dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Il a été mené 1-0 par le Burkina Faso, mais Vincent Aboubakar, le capitaine, sur pénalty deux fois, a réussi à mettre les Lions Indomptables devant au terme des 90 minutes, devant le président Paul Biya. 2-1 pour le Cameroun face au Burkina Faso. À suivre ce soir l'autre rencontre de la poule entre le Cap-Vert et l'Éthiopie. La deuxième journée, ce sera jeudi.
Merci Morgane. Victoire du Cameroun qui s'impose donc dans ce match d'ouverture, après avoir été mené 1-0 quand même. Ils se sont fait quelques frayeurs. Les Lions Indomptables, mais tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre pour eux. 18h57, ils arrivent, ils sont en grande forme. Ils vont nous rappeler tout ce qui s'est passé dans ce week-end. Thibaut Giangrande, Oussem Le Saïef, et il y a Maryse aussi.
Maryse arrive.
Bien évidemment,
comme d'habitude.
Pas de manchoir sans Maryse.
Non, c'est ça. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, parce que dans 5 heures, un peu plus,
oh là là,
Novak Djokovic, c'est aligné hors française que son cas va être étudié par le tribunal fédéral australien.
Surtout que nous, la défense des migrants, tout ça, ça nous connaît.
Pourquoi?
Bah, il est avec des migrants apparemment.
Ouais.
Ah, c'est pas un migrant.
Il mange des cafards, paraît-il.
Mais ouais, c'est sa mère qui dit ça en tout cas.
Ouais, donc c'est une histoire.
Mais bon, c'est Jésus-Christ et en même temps, c'est
pas ça. Et on se posera la question sur la suite, l'après, une fois que tout ça sera terminé. La chasse au record de Novak Djokovic peut-elle être mise en danger là, avec sous cette histoire? Marion Bartoli sera également avec nous pour cette page de Djoko. Et puis évidemment, les JO dans 26 jours, les JO d'hiver, week-end particulier pour les Français, il y a eu du bon et du moins bon.
Oui, Tessa Worley, on peut dire que c'est du bon. Quentin Fillon-Maillet,
très bon.
Perrine Laffont,
très très bon.
En fait, tout est très bien. Bravo pour les Français, on aura aussi un mot de rugby, Patrick Arletas.
Ouais, c'est ça.
Patrick. Et Clément Noël aussi.
Je voulais pas parler du moins bon, je voulais garder les gens dans le positif. Patrick Arletas, entraîneur de l'USAP, on parlera de rugby avec lui. Il nous a offert un match de D2 avec son équipe, de Pro D2. Oui, parce qu'en fait, il a affronté une équipe avec laquelle il a
combattu l'année dernière.
Voilà.
Pro D2, Perpignan.
Tout simplement.
Voilà. Le RMC Sport Show arrive dans un instant, 19h-20h, comme tous les dimanches, avec Maryse et vous sur le hashtag RMC Live, le direct studio. A tout de suite.